personnel santé résiste actuellement, ce sont les personnels des écoles, des crèches. Voilà, c'est surtout les gens qui sont cotés en A.
Ça fait combien de temps que les personnels sont en grève?
Et bien depuis le 4 juin, le personnel est en grève, donc dans plusieurs services, à la cuisine centrale de Vénissieux. Voilà. Et dans
désolé, on avait un petit problème technique à l'arrière, il y a eu un petit blanc à l'antenne, mais peut-être qu'on va commencer du coup avec Rita. Et
il y a un bruit de feu.
Et avec chez Rita, il y a eu le rendu aujourd'hui du procès, et le procès, du coup, ça a été très mal passé, parce que tout le monde s'attendait à un report, à l'accusation comme à la défense, et en fait, ça a été une expulsion immédiate, sous une semaine de délai seulement, qui a été prononcée. Et c'est un peu merdique pour tous les gens qui habitent sur place, parce qu'il y a environ 70 personnes qui sont dans ce lieu-là, qui est constitué de deux immeubles squattés à la Guillotière, et en plus ce matin, c'était à 6-7 heures du matin, il y a le 52 rue Montesquieu qui a été expulsé aussi, et ce qui fait que au final là, il y a, c'est un peu super chiant pour tous les squats à la Guillotière. On va continuer avec la Bosnie et ce qui se passe là-bas.
Alors, là on voulait vous parler un petit peu de la Bosnie parce qu'il s'y passe des choses. Et qu'en plus, on n'en parle jamais de la Bosnie, on n'a jamais de nouvelles de ce qui s'y passe. Alors que c'est pas si loin, c'est entouré de pays dont on parle beaucoup plus. Et alors qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe des choses. Depuis presque 10 jours, à Sarajevo et à Banja Luka, il y a pas mal de manifs, notamment contre l'immobilisme des élus et l'impasse politique générale dans laquelle ce pays se trouve. Donc, pour commencer, je vais essayer de contextualiser un petit peu les choses. Alors, la Bosnie, c'est donc un ancien pays de Yougoslavie, dans les Balkans, dont la capitale est Sarajevo, et qui est une ville qui a été marquée par un siège très long de 92 à 95. La Bosnie-Herzégovine est donc un pays qui est marqué aussi par les divisions ethniques ou culturelles, selon comment on les appelle. C'est là-dessus que sont appuyées les personnes qui avaient intérêt à ce qu'une guerre éclate en ex-Yougoslavie et qui ont donc divisé les populations par ethnie ces ethnies comprenant aussi la dimension religieuse, mais pas que. Et donc, la Bosnie-Herzégovine est à l'heure actuelle dessinée encore par cet éclatement entre collectivités culturelles. On peut voir ça dans la construction même de ce pays, puisque ce pays est divisé en trois entités. Donc il y a deux entités principales. Il y a l'entité serbe, qui est la Republika Srpska de Bosnie, et qui se trouve au bord des frontières nord et est, et qui fait un petit peu moins de la moitié du territoire, mais pratiquement la moitié. Et l'autre entité principale, c'est la Fédération de Bosnie et Herzégovine, donc qui fait partie du pays qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine. Et donc, cette entité-là est aussi composée d'une collectivité croate et d'une collectivité bosniaque. Et il y a encore une petite entité qui s'appelle le district de Brčko, qui est donc un territoire au statut neutre et autonome, et qui reste sous supervision de l'ONU. À cette organisation territoriale assez complexe, vient se superposer une organisation aussi par collectivité culturelle ou ethnique, c'est-à-dire que tous les postes politiques d'élus, de parlementaires, etc. au niveau national sont triplés pour qu'il y ait à chaque fois un poste, pour un même poste en fait, qu'il y ait une personne serbe, une personne croate et une personne bosniaque. Tout ça réparti dans le territoire, c'est-à-dire que Par exemple, en Republika Srpska, il y a un président, qui est le président serbe, et en Fédération de Bosnie-Herzégovine, on a deux présidents, qui sont le président bosniaque et le président croate. On ne va pas s'étendre plus sur cette organisation très complexe de la vie politique institutionnelle en Bosnie-Herzégovine. Mais bon, c'est très important d'avoir ce contexte en tête pour expliquer comment ça se passe et quelle importance a les mouvements qui sont en train de se dessiner en ce moment dans ce pays. Puisqu'en fait, c'est un pays qui a énormément de mal à se remettre de la guerre, qui a vraiment été physiquement très touché. Il y a encore 4% du territoire qui est miné. Économiquement, ça marche pas du tout. Et donc, il y a 46% de chômage dans des endroits, ça va jusqu'à 80%. Et au niveau politique, il est encore à moitié sous tutelle internationale, à des endroits, bref. Et à tous les niveaux, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas.
Ah, une question. Oui, mais ça veut dire quoi, tutelle internationale, en fait ?
Ça veut dire que jusqu'à peu, il y avait un observateur international mandaté par l'ONU qui était, en gros, le représentant politique et l'autorité suprême du pays.
Donc, ok, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'instance où les gens les élisaient alors.
Il y a ces instances-là, mais l'autorité suprême au-dessus de tout ça, ça reste l'ONU qui a une mainmise dessus. Alors à l'heure actuelle, c'est normalement la personne qui était mandatée a fini son mandat, mais il n'empêche que la plupart des institutions fonctionnent énormément avec des fonctionnaires internationaux de l'ONU ou de toutes les milliers d'instances européennes, de l'OTAN, de l'ONU qui peuvent trouver du travail là-bas en gros quoi. Et donc notamment les prises de décisions politiques sont hyper bloquées parce que il y a tout cet enchevêtrement de différents niveaux, de territoires, de collectivités culturelles il y a des enjeux de pouvoir très forts aussi entre collectivités, entre notamment parce qu'on est aussi dans une situation où les procès des criminels de guerre sont encore en cours, que il n'y a pas de reconnaissance des génocides qui ont été perpétrés, etc., etc. Donc tout est hyper tendu, hyper à vif. Il y a par-dessus donc des exigences de la communauté internationale qui veut bien filer du fric à condition que ça se passe de la manière dont elle veut et qu'elle puisse continuer à superviser tout ça. Qui a un ancien socle communiste, puisque juste avant la guerre, en fait, c'était un pays communiste depuis plusieurs dizaines d'années, donc avec un système qui fonctionne plus avec les exigences justement des institutions internationales actuelles. Et puis la corruption, qui a un côté le côté corrompu officiel, c'est-à-dire tous les fonctionnaires internationaux qui vont être bien contents de venir à Sarajevo faire un séjour de 2 ans parce qu'ils sont mieux payés et que du coup il y a une bataille entre les institutions internationales et entre pays pour pouvoir placer ces fonctionnaires pour qu'ils soient bien contents et bien riches et voilà. Et la corruption plus officieuse il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec des pots de vin parce que vu que rien fonctionne, si on veut que les gens mettent l'énergie pour le faire, et ben on les paye plus. Bref, du coup c'est dans tout ce contexte hyper complexe et hyper plombant un peu que il y a une étincelle qui a mis le feu aux poudres la semaine dernière. Alors en fait, c'est parti du fait que depuis le 12 février dernier, donc ça fait plus de 4 mois, les nouveau-nés peuvent plus être enregistrés officiellement.
Je vais répéter parce que la phrase est...
Donc en fait, bizarre. Voilà, les bébés naissent et il n'y a plus rien qui est fait. Enfin, il n'y a plus la loi qui permettait de les enregistrer officiellement. Ils n'ont plus de numéro d'immatriculation administrative, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de sécurité sociale ni de passeport. Et tout ça parce que donc, c'est la Cour constitutionnelle qui a décidé de suspendre la loi qui encadrait l'enregistrement des nouveau-nés. Parce que il y a un problème sur la nouvelle dénomination des communes de Republika Srpska, Donc voilà, c'est là où on voit aussi à quel point c'est tout emmêlé, le fait qu'il y ait différentes entités territoriales. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a différentes langues, en fait, enfin, en tout cas, différentes écritures, et qu'en Republika Srpska, c'est le cyrillique qui est l'écriture officielle, et que dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, c'est l'alphabet latin. Donc voilà, ça pose des problèmes de traduction à l'intérieur même du pays, et c'est ces problèmes-là qui ont fait que le Conseil constitutionnel a suspendu cette loi, qui fait que depuis 4 mois, les nouveau-nés sont pas enregistrés, donc ils naissent sans papier. Donc ça, c'est un problème en soi, et puis ça montre à quel point le pays galère lui-même, parce que voilà, l'État est même plus capable d'enregistrer les personnes qui naissent sur son territoire et qui sont censées avoir les pleins droits, etc. Mais surtout, il y a eu un cas particulier qui a montré toute la gravité de la situation, puisqu'il y a une petite fille qui est née et qui a 2 ou 3 mois et qui a un besoin urgent d'une transplantation, et qui pour ça doit être transportée en Allemagne, puisque la Bosnie a plus les infrastructures en fait pour faire ça, et du coup elle devait partir d'urgence en Allemagne, mais sauf qu'elle est coincée puisque elle n'est pas enregistrée, il n'y a pas le moyen de l'enregistrer, donc elle n'a pas de passeport, donc elle ne peut pas sortir du territoire. Et donc, à l'heure actuelle, elle est en danger de mort à cause de cette incapacité des institutions à l'enregistrer. Donc, c'est un peu... voilà. c'est ça le contexte qu'on a à l'heure actuelle. Et donc, le 6 juin dernier, à Sarajevo, en fait, il y a un mouvement social qui est né avec une foule qui a grossi au fur et à mesure de la journée, qui allait devant le Parlement et qui a décidé de bloquer le Parlement et d'empêcher les députés de sortir jusqu'à temps qu'ils trouvent une solution. Et il y a eu jusqu'à, en fait, 10 000 personnes qui se sont rassemblées. Alors, il faut savoir, en fait, qu'en Bosnie et à Sarajevo, il n'y a pas eu de mouvement social, zéro mouvement social depuis la fin de la guerre, parce que il y a beaucoup... Enfin, c'est trop la merde, en fait, pour qu'il y ait la place d'avoir un mouvement social.
Peut-être que tu l'as déjà dit, mais c'est quand la fin de la guerre ?
En 95. Donc il y a un peu moins de 20 ans, mais quand même. Et du coup, les seuls mouvements qu'il y avait, en fait, c'était des mouvements pour réclamer que la justice fonctionne plus, ou alors le peu de mouvements sociaux qu'il y avait, voilà, c'était soit sur des questions de collectivité culturelle, soit sur des questions extrêmement précises, mais pas un mouvement social global comme on peut le voir en ce moment. Et donc on a eu et ce qui est très remarquable aussi, c'est justement que les personnes qui sont venues bloquer ces parlementaires venaient d'ethnies entre guillemets différentes. Enfin, c'était des Bosniens bosniaques, des Bosniens serbes et des Bosniens croates. Et ça, c'est vraiment sans précédent, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les députés et 350 investisseurs étrangers qui étaient là par hasard pour une conférence organisée par la Banque centrale sont fait bloquer jusqu'à 4 heures du matin. Donc c'est pas rien quand même. Et voilà. Et je suis un peu perdue dans mes feuilles.
Tu fais une petite pause.
Donc, voilà. Et parmi les panneaux, on pouvait lire Abat le nationalisme, vive la Bosnie-Herzégovine citoyenne. Et pour montrer en fait ce côté unitaire du pays, qui est plus du coup des gens contre leurs élus et les institutionnels, en fait, c'était un panneau qui était écrit dans les deux alphabets. Voilà. Dans la masse de gens qui étaient là pour bloquer, il y avait aussi bien des agriculteurs que des employés qui ont tous des difficultés, notamment aussi des difficultés imposées par l'Union européenne, hein, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas les avantages d'être dans l'Union européenne qu'ils n'en subissent pas les conséquences négatives. Et il y a aussi du coup tous les taxis de peut-être pas tous, mais je crois 1500 taxis de Sarajevo qui ont bloqué complètement le trafic, qui est assez facile à bloquer dans cette ville, pendant plusieurs heures. Et donc, j'ai trouvé aussi des paroles d'un militant d'un groupe anarchiste de Sarajevo qui explique que il y avait vraiment de quoi faire démarrer un mouvement, qu'on se demandait juste quand ça allait arriver, et que potentiellement, ce qui s'est passé en Turquie aussi a inspiré fort les personnes à Sarajevo, notamment parce qu'il y a eu des rassemblements de soutien aux manifestants turcs de la place Taksim qui ont été organisés à Sarajevo juste avant. Suite à ce blocage, le Parlement a adopté une loi provisoire dans l'urgence pour pouvoir sortir du Parlement. Mais en fait, c'est pas du tout suffisant pour les manifestants, puisque les manifestants, eux, ils réclament justement qu'il y ait des choses pérennes qui soient posées et pas juste quelque chose qui dure, je sais plus la durée, mais c'est 90 jours. Donc, ils continuent les manifestations et ils demandent aussi à ce que tous les élus reversent 30% de leur salaire à un fonds qui serait créé pour les enfants malades. Et les enfants qui doivent partir à l'étranger pour se faire opérer. Donc ça, c'est les revendications concrètes des manifestants. Après, plus globalement, il y a une remise en cause du système politique dans sa totalité et de tous les blocages qu'il y a dedans.
Ça fait un mouvement social vraiment différent. Hyper massif et hyper différent de ce qu'on peut entendre d'habitude. Quoi.
Et du coup, le maire de Sarajevo est allé ce jour-là aussi apporter son soutien aux manifestants. Et ce qui est intéressant de noter sur la répression, c'est que le Premier ministre a demandé... Alors, il y a plusieurs premiers ministres, je ne sais pas lequel c'est. Je pense que c'est le Premier ministre... Partout, il y a plusieurs. Donc,
par groupe, non ?
En fait, en Fédération de Bosnie-Herzégovine, il y a deux premiers. En fait, tout est doublé, puisqu'il y a, pour chaque poste, il y a un Bosniaque et un Croate. Donc, c'est un des deux premiers ministres. A demandé l'intervention de la police sur la place, mais le ministre de la Sécurité, lui, il a déclaré que non, il n'enverrait pas la police. Et du coup, je pense que c'est aussi, c'est moi qui interprète, mais j'ai l'impression que c'est aussi comment le système politique, là, se retrouve bloqué lui-même au bénéfice des manifestants. Mais voilà, il s'auto-bloque là-dessus. Et donc, ça a continué, puisque le mardi 11 juin, donc mardi dernier, il y a eu de nouveau 10 000 personnes qui se sont rassemblées sur ces revendications-là, qui ont du coup appelé leur mouvement Bebolutia, qui est un mélange de Beba, qui veut dire bébé, et de Revolutia, qui veut dire révolution.
C'est donc la révolution des bébés.
Oui, mais c'est comme ça que c'est titré de partout, enfin, de partout, dans les peu d'articles qu'on trouve, quoi. Et ça s'étend aussi géographiquement, puisque cette fois, mercredi, c'était à Banja Luka. Donc Banja Luka, c'est la capitale de la Republika Srpska, qui est, je le rappelle si vous avez bien suivi, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Donc ça s'étend du coup sur une autre entité territoriale et avec une autre collectivité culturelle, on va dire. Et là, donc, ça part plutôt des étudiants qui ont été rejoints par des retraités et des anciens combattants et qui se rapprochent aussi du mouvement où il y avait quelques personnes qui commençaient à occuper un parc dans la ville pour pas qu'il soit transformé en centre commercial. Bref, tout ça, ça s'est un peu agglutiné pour donner des milliers de manifestants. Alors que il y avait une interdiction de manifester qui avait été émise par les autorités. Donc voilà, encore une fois, il n'y a jamais eu un mouvement comme ça dans ces villes et sur ces territoires-là. Ce que j'ai pas dit, c'est que Sarajevo, donc il y a 10 000 manifestants, sachant qu'il n'y a jamais de manifestation, et que c'est une ville qui compte à peu près 350-400 000 habitants. Donc pour donner la mesure aussi, et sur un pays qui compte 4 millions d'habitants. Donc à remettre à proportion. Et donc, bon, les journalistes parlent un petit peu de printemps bosnien, mais en tout cas, ça inquiète les autorités. Il y a déjà eu le secrétaire général du Parti des sociaux-démocrates indépendants, qui est donc le parti du président de la Republika Srpska. Et donc, ce secrétaire général a dû présenter sa démission parce qu'il a traité tous les étudiants protestataires de bâtards sur son blog. Vous voyez, ils sont
tranquilles.
Tranquilles. Bon, et où on en est à peu près à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu plutôt un appel au calme lancé par les organisateurs. Enfin, c'est un appel au silence, en fait, pour dire qu'on va laisser travailler les députés pour qu'ils adoptent cette loi, puisque c'est vraiment une question de vie ou de mort pour certains enfants, mais que par contre on peut aller les surveiller en buvant son café devant le Parlement. Hop. Et puis qu'est-ce que je voulais rajouter, qu'il y a eu des tentatives pour casser le mouvement, qui est un mouvement unitaire au sens large, en fait, et donc des tentatives directement des élus serbes qui ont dit que si on bloquait le Parlement, c'est parce qu'ils étaient serbes et qu'ils ne se sentaient pas en sécurité à Sarajevo. En fait, ça a tout de suite été cassé et complètement démenti. Et puis ça marche pas, on le voit bien,
Il y avait pas que les élus serbes qui étaient bloqués dans le Parlement, il y avait tout le monde.
Tout le monde, et c'est pas parce qu'ils sont serbes qu'ils sont attaqués à ce moment-là, c'est parce qu'ils sont élus et qu'ils profitent du système et qu'ils participent à la merde générale. Voilà, cette stratégie de division par les ethnies a pas pris jusqu'à présent, et je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe là-bas dans les semaines à venir. N'hésitez pas à aller chercher vous-même des infos, notamment sur le site du Courrier des Balkans, qui est le portail francophone de ce qui peut se passer dans les Balkans, parce que c'est vrai qu'on trouve zéro info. Et juste pour finir, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les faits, mais en tout cas, il y avait des étudiants qui avaient prévu de manifester aujourd'hui quand même à Sarajevo, à Zenica et à Banja Luka. Voilà pour...
Ok.
Merci de l'explication.
Vous êtes toujours sur le 102.2, c'est le Canu Info, et on va passer à Argenteuil maintenant.
Oui, effectivement. Du coup, le 20 mai 2013, il y a eu une agression de skinheads. Donc, les skinheads, c'est un mouvement de personnes d'extrême droite qu'on a beaucoup entendu parler, parce qu'ils étaient impliqués dans la mort de Clément Méric la semaine dernière. Et du coup, là, ils auraient agressé et frappé une personne, une femme de confession musulmane portant le foulard. Ils l'auraient agressée dans les rues d'Argenteuil. Du coup, elle a eu peur des représailles et n'a pas voulu porter plainte au début. Puis après, soutenue par sa famille et ses proches, et aussi en faisant le parallèle avec une autre agression dans les rues d'Argenteuil, elle allait porter plainte. Donc l'autre agression, c'était sur une autre personne qui était attaquée à coups de cutter quelques mois avant, avec des personnes qui l'ont agressée, menacée et eu des propos islamophobes. Et donc la police n'a pas jugé utile de prendre la plainte et a uniquement fait une main courante. Les policiers ont refusé de prendre des photos, des traces, des coups et hématomes sur le visage et le corps de la plaignante. De plus, la municipalité d'Argenteuil a dépêché des émissaires pour dissuader la famille de parler de cet acte, prétextant le risque d'émeute en banlieue. Du coup, le risque d'émeute, on nous en a bien parlé ces derniers jours. Parce que mardi, une autre personne était interpellée par la police pour un contrôle d'identité, sûrement parce qu'elle portait le voile intégral dans la rue, ce qui est interdit depuis la dernière loi qui a passé sous le gouvernement Sarkozy. Et du coup, là, les médias se sont bien précipités pour... je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est à 19h, il y a un contrôle d'identité, c'était mardi 11 juin, et des personnes se sont interpellées, des habitants, des commerçants.
Interposées,
merci. Et parce que du coup, l'interpellation était violente. Des policiers a arraché le sac à main de la personne, lui a crié dessus, et du coup, elle s'est est tombée en larmes et du coup les personnes sont venues en solidarité autour d'elle pour qu'elle ne subisse pas ce contrôle de police au faciès et injustifié, même justifié ou pas, les contrôles d'identité. C'est une autre histoire. Et du coup, ils ont appelé les renforts. Une 60aine de policiers sont arrivés sur la place, ont utilisé des bombes lacrymogènes, ont tiré au flashball en direction des personnes qui s'étaient rassemblées pour assister à la scène et ne pas la laisser toute seule face à cette situation. Et voilà, du coup, les médias mainstream, tels 20 minutes et Le Monde, etc., ont tout de suite dit qu'il y a eu des mini-émeutes à ce moment-là. Et du coup, sur le site de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui s'appelle le CRI, plutôt, eux, ils montrent plutôt la violence, en fait, qu'on fait par la police auprès des personnes. Donc ils ont embarqué, la police a embarqué deux habitants du quartier, dont un qui a été violemment battu parce qu'il a osé insister pour défendre la jeune femme. Les médiateurs de la ville ont été priés de ne pas intervenir pour faire médiation dans cette histoire. Ensuite, Sophia, donc, qui était la personne interpellée, a été insultée par les policiers qui l'ont embarquée, la traitant de sale pute, mécréante, je ne comprends pas pourquoi tu es voilée, ou alors tu es moche. Et voilà. Du coup, c'était pour mon... Voilà.
On continue avec un petit morceau de musique avant de passer à la rubrique prison.
Du Canu Info sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on va parler à notre rubrique où on parle des tôles, où on essaye de faire ressortir un petit peu ce qui s'y passe, essayer de diffuser l'info, les problèmes qu'il y a dedans, comme les mouvements qu'il peut y avoir. On commence.
Du coup, on va parler de ce qui se passe à la prison de Toulouse, donc la maison d'arrêt de Cesse. Il y a eu une manifestation qui a eu lieu le samedi dernier 8 juin à 11h devant la prison pour soutenir les prisonnières et pour signifier à l'administration qu'elle ne peut pas agir en toute impunité. L'administration pénitentiaire et ses agents doivent savoir qu'ils sont regardés. Et tout a commencé parce qu'il y a une émission anticarcérale de Toulouse. Du coup, il y en a plusieurs sur la radio de Toulouse, qui est un peu comme celle de Radio Canu, qui s'appelle Canal Sud. Ils ont reçu des lettres de prisonnières du quartier de femmes de la maison d'arrêt de Cesse pour dénoncer le climat exécrable qui règne, les brimades des matons et le silence de la direction. Certaines d'entre elles ont été jusqu'à la tentative de suicide pour se faire entendre de la direction, et d'autres sont au mitard et font la grève de la faim en vain. Alors, je vais vous lire une première lettre qui avait été écrite le 10 mai 2013. Incarcérée à la prison de Cesse, quartier femme, je souhaiterais alerter l'opinion publique sur les conditions de détention qui nous sont infligées. Des exemples concrets de propos diffamatoires, méprisants, condescendants, tenus par les surveillantes sont légion. Nous avons alors tenté de prévenir la direction, mais il semble que nos courriers n'arrivent jamais dans le bureau, nos lettres étant interceptées par les surveillantes. à bout de nerfs, épuisé par ces conditions de détention rythmées par la répression, les brimades et les pressions, nous avons entrepris aujourd'hui une action afin de tenter de faire bouger les choses. En effet, depuis 10 jours, il y a eu 5 tentatives de suicide au quartier de femmes, et aujourd'hui, alors que nous avons voulu avoir un entretien avec la directrice, celui-ci nous a été refusé. Après maintes menaces de la part du personnel pénitentiaire, 3 d'entre nous, poussés dans leur dernier retranchement, ont avalé des cachets. Moi-même, je me suis automutilée. Ces gestes de désespoir ne traduisent que le climat exécrable qui règne ici. Par ce courrier, nous souhaitons dénoncer le harcèlement et les pressions psychologiques que nous subissons de façon répétée. Pourriez-nous, s'il vous plaît, lire notre courrier à l'antenne d'une part et alerter les médias pour nous? Nous craignons que l'une d'entre nous ne se fasse plus que de mal que de raison. Nous en remercions les détenus de 16 quartiers femmes.
On enchaîne sur une deuxième lettre qui date du 30 mai. Madame, monsieur de la radio, je viens à vous pour dénoncer les maltraitances que l'on subit à la maison d'arrêt pour femmes de CES, que ce soit en tant que spectatrice ou qu'en tant que persécutée. Tout d'abord, il y a 4-5 jours, une détenue basque espagnole subit régulièrement les provocations verbales des surveillantes. Notre collègue détenu Iti a demandé gentiment aux surveillantes de ne pas la tutoyer, que le respect doit être dans les deux sens. Voilà, le ton est monté et Iti a été passé à tabac. Coup de pied dans le ventre, etc. De là, ils l'ont jeté comme un chien au mitard, la cellule disciplinaire. Il y fait très froid dans cette cellule, elle a réclamé une couverture, ils ne lui ont pas donné. Aussi, le lendemain, Iti a été vue par le médecin à qui elle a fait part qu'elle était indisposée et qu'elle n'a rien, ni serviette, ni papier toilette. Indisposée, ça doit vouloir dire qu'elle a ses règles. Le médecin lui a donné de l'essuie-tout, ne serait-ce que pour l'hygiène, et en la remontant au mitard, les surveillantes lui ont confisqué l'essuie-tout.
Iti a fait part de son mécontentement et hélas, les surveillantes le repassaient à tabac. Résultat, ils lui ont mis 25 jours de mitard dans des conditions inhumaines, sans hygiène, elle a froid, et pour faire valoir ses droits, la pauvre Iti fait la grève de la faim avec une amie qui elle aussi fait la grève de la faim. Et pour les détenus qui ont tout entendu ou qui ne sont tout simplement pas d'accord avec leur façon tortionnaire, les détenus refusent le plateau, de prendre le manger aux heures de repas. Les surveillantes nous font comprendre qu'on n'a pas intérêt, elles nous dissuadent en nous faisant comprendre qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler. Madame, monsieur de la radio, il faut faire quelque chose et vous aussi, chers auditeurs, auditrices, aidez-nous à faire ce que les choses changent. Les surveillantes se comportent pire que les détenus. Elles nous mettent la pression, l'humiliation, elles jouent avec nous.
Par exemple, hier, une maman était venue voir sa fille et parce que cette vieille dame sonnait au portique à cause de son soutien-gorge, cette même dame a même proposé d'enlever son soutien-gorge, malgré ça, ils lui ont fait faire demi-tour et rentrer chez elle. Cette dame n'a pas de voiture, elle prend le bus et la prison est à plus d'1h30 de la ville. Il y a aussi une jeune Yougoslave qui a fait une fausse couche et qui n'a pas eu les soins adéquats. Il y a aussi une détenue qui a été fouillée abusivement. Elle l'a ressentie comme un viol et cela 3 fois dans une pièce différente en interrompant son parloir. Je peux citer beaucoup d'autres abus. Nous sommes des détenus, pas des animaux. Il faut sincèrement que l'on nous aide. Nous, on ne peut rien faire du fond de notre cellule. Voilà pourquoi je vous demande de nous aider pour que nos conditions de détention soient justes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ma lettre va pouvoir nous aider grâce à vous. Merci. Et pour juste pour les, par exemple pour les familles qui se voient refuser des parloirs, c'est une politique que les matons font tout le temps quoi. Du coup, c'est pas très très exceptionnel ce qu'elles décrivent malheureusement.
On continue en relisant un texte qui a été écrit il y a à peu près 1 an à Lyon-Corbas. Donc, je commence la lecture. Ce reportage est le fruit d'un travail fourni par nos camarades féministes de l'EPKK, collectif des prisonnières politiques basques, de la maison d'arrêt de Corbas en août 2012. À commencer par leur expérience quotidienne, elles y racontent les conséquences qu'ont chaque minute, chaque heure, chaque journée passée en prison dans la vie d'une femme. Il a pour but de faire connaître la réalité de ces femmes incarcérées. Avant toute chose, nous souhaitons rappeler de manière générale qu'emprisonner une personne revient à lui retirer toute trace d'humanité, qu'elle soit un homme ou une femme, bio ou trans. La prison est le royaume de la répression et de l'impunité. Elle est faite pour briser et faire plier une personne. Dans la prison, la priorité est ce qu'ils appellent la sécurité. Tout est construit, tout est réglé par rapport à un concept de sécurité poussé à l'extrême. L'être humain disparaît derrière la sécurité.
La privation. Lyon Corba est une prison à gestion mixte. La privatisation. Lyon Corba, c'est bon, vous avez bien compris, privatisation. Lyon Corba est une prison à gestion mixte. La surveillance est dans les mains du public et tout le reste est privé. Nous avons EFH qui est propriétaire du bâtiment, JEPSA qui s'occupe de la formation et du travail et EREST qui s'occupe des repas, des achats et de l'entretien. Ce sont des grandes entreprises pour lesquelles l'objectif est bien clair, le profit économique. La privatisation est arrivée à la prison, de la même façon qu'elle devient maîtresse de beaucoup de secteurs de la société, comme l'éducation, la santé. En étant du côté du marché et du capital, les entreprises font leur nez ici également, se servant de nos souffrances pour s'enrichir encore et encore. Bien sûr, tout cela ne pourrait être ainsi sans l'aide du ministère de la Justice et de l'Intérieur. La prison est un lieu où l'argent public passe aux mains des entreprises privées, au retour de prestations qu'avant n'étaient pas privatisées. La location du bâtiment, les repas, la formation est payée par l'État à des entreprises. Nous, les prisonniers et prisonnières, nous leur payons le service des cantines, le peu d'achats que nous pouvons faire, le téléphone, la télé, le frigo. Les consommations quotidiennes ne peuvent se faire que par le biais de l'entreprise EREST. Maudite entreprise, quel casse-tête permanent, combien de magouilles. C'est cette entreprise qui s'occupe de nos repas, de nos changements de draps, de la télévision et du frigo, mais aussi de la cantine, de nos courses, c'est-à-dire du tabac, des produits d'hygiène, de la nourriture, les papiers. Et les catalogues ? Ce sont des photocopies qui datent de 2010. Un catalogue sexiste fait à l'attention des hommes où la MAF, donc Maison d'arrêt des femmes, n'existe pas, auquel ils ont ajouté une simple feuille où il y a quelques produits pour l'hygiène de la femme.
La formation entre les mains d'une entreprise privée JEPSA. Nous avons dans l'année la possibilité de faire deux cycles de formation qui durent l'une 5 semaines et 8 pour la seconde, mais ni l'une ni l'autre ne sont remboursées. Résultat, en plus de n'offrir que des cycles de formation qui ne sont pas dans la réalité du marché, on ne pousse pas à l'éducation. Elles ne sont pas intéressantes pour les femmes qui ont besoin d'argent. Il faut prendre en compte qu'ici, beaucoup de femmes n'ont rien du tout et qu'elles ont souvent leurs proches dans la rue et sans argent. Pour garder un minimum de dignité, il est indispensable à tout prisonnier d'avoir un peu d'argent en prison. La prison, avec son offre de formation ridicule, enlève aux femmes toute la possibilité d'un avenir indépendant. On va revenir d'ailleurs un peu après sur les conditions de travail en détention, mais voilà, en gros...
On va faire un petit break musical entre-temps.
On fait un petit break musical. Sur Radio Canu. On n'a pas le temps de vous lire en entier l'appel du collectif Justice et Vérité pour Sofiane Mostefaoui. Par contre, il nous paraissait important de diffuser le message que ce collectif organise un rassemblement devant la maison d'arrêt de Lyon Corba demain à 15h. Donc tout le monde est invité à les rejoindre pour un temps de recueillement en hommage à Sofiane et aux 25 autres victimes de cet abattoir humain aux portes de Lyon. Pour rappel, Sofiane est mort le 11 mars dernier alors qu'il était placé sous la responsabilité de l'État et de ses agents. Et la famille réfute totalement la thèse officielle du suicide. Voilà.
Et on les avait invités il y a un mois, du coup, il y a l'émission sur notre blog Canu Info du Radio Canu. Et on va enchaîner sur le rendu du Conseil constitutionnel par rapport au droit du travail dans les prisons. Du coup, deux détenus de la prison de Metz, en Moselle, ont porté plainte devant le Conseil des prud'hommes de Metz parce que les prisonniers ne font pas l'objet d'un contrat de travail alors qu'ils sont ils travaillent en fait dans les tôles et ils travaillent pour des grosses boîtes. Je manque d'un exemple tout de suite, mais c'est vrai. Non, mais par exemple, ils font de la téléphonie, par exemple, pour Orange ou SFR, ou ils bossent pour. Ouais, ils font de la sous-traitance pour des boîtes. Et du coup, ils ont des. Donc, ils ne sont pas encadrés par le droit au travail. Et par exemple, leurs heures travaillées, c'est du net à payer, c'est 23 centimes par heure. Donc, avec leurs avocats, ils sont allés. Devant les prud'hommes et aujourd'hui le Conseil constitutionnel, donc je sais pas trop le lien entre les différentes chambres,
mais bon, ça a dû remonter tous les échelons de la justice pour en arriver au Conseil constitutionnel.
Du coup, face à cette situation, le Conseil constitutionnel devait répondre de cette zone de non-droit où du coup il y a des personnes qui sont salariées, qui ont une des fiches de paye, mais qui n'ont pas le droit de grève, qui n'ont pas le droit de faire recours à des instances s'ils ont des problèmes de leurs conditions de travail, de leur rémunération. Si d'un seul coup l'entreprise elle décide d'arrêter de travailler, bah du coup eux ils n'ont pas d'instance syndicale avec qui ils peuvent négocier la fin de contrat, ils peuvent pas faire grève, j'ai déjà dit. Du coup en fait ils sont vraiment corps et âme pour
exploiter
complètement pour ses patrons. Et en plus, c'est l'administration pénitentiaire, le directeur et les matons qui décident qui peut avoir accès à ces emplois. Du coup, ça veut dire qu'il faut être dans les bons petits souliers des matons pour être bien vu, pour avoir la possibilité de travailler. Et du coup, ça veut dire avoir un peu d'argent de poche, parce que c'est à peine de l'argent de poche pour pouvoir payer la télévision, qui coûte un tarif énorme par rapport à la vie quotidienne. Du coup, le Conseil constitutionnel a tout simplement refusé de répondre à cette question. Et du coup, a trouvé que la situation que les personnes qui n'avaient pas de contrat de travail étaient conformes à la Constitution, estimant que celle-ci ne vidait pas les principes. Et c'est au législateur de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne. Voilà, ça veut tout dire.
On enchaîne avec les brèves. Donc, on enchaîne avec les brèves de détention qui sont là pour nous rappeler ce qui se passe à l'intérieur et puis éventuellement les mouvements de soutien à l'extérieur ou les mouvements à l'intérieur de lutte.
Et la première brève concerne la prison de Villepinte où un détenu a refusé de réintégrer sa cellule dimanche 9 juin à midi. Les matons qui ont voulu le forcer à rentrer dans sa cellule ont assez souffert. 4 d'entre eux blessés ont fini le week-end à l'hôpital.
Procès à Valenciennes contre des matons de la prison locale. Le procureur requiert 3 à 12 mois de prison avec sursis contre 3 matons et 6 mois à l'encontre d'un ex-chef de détention. Ils sont accusés d'avoir frappé un détenu, d'avoir fait pression sur un autre détenu témoin des violences pour qu'il se taise.
Mercredi 5 juin au matin, donc mercredi, pas celui-là, celui d'avant, un détenu de la maison d'arrêt d'Amiens a frappé 2 membres du service médical. L'un des 2 médecins a pris un coup de lame de rasoir à la gorge.
À la maison d'arrêt de Rouen, on trouve pas mal de choses ces derniers temps dans les cellules et surtout des choses qui passent par-dessus le mur d'enceinte. Donc drogue, téléphone, nourriture passent par-dessus le mur d'enceinte, mais dernièrement c'est carrément un coupe-boulon qui a fait le grand saut.
Ouais, il est fort. Lundi 10 juin, 3 détenus de 2 cellules différentes ont mis le feu à leur cellule dans la tôle de Saint-Gilles en Belgique. Ils réclament depuis longtemps un transfert dans une autre tôle sans être écoutés. Peut-être que ce coup-ci, l'administration va daigner les transférer.
On apprend cette semaine que les mineurs détenus au centre éducatif fermé de Gévesey, en Bretagne, se sont révoltés début mai. Quand l'un des leurs a été ramené au centre après une évasion, 5 de ses camarades ont attaqué les gendarmes. Une dizaine de militaires sont intervenus pour mater la rébellion.
On continue, on part en Russie parce que le 31 mai, encore une fois, c'est un chat qui a été arrêté dans une prison de la République de Komi.
On adore les chats.
Au nord de la Sibérie, le chat transportait 2 téléphones portables avec leur chargeur.
Si vous nous écoutez régulièrement, on avait déjà eu la même brève d'un chat qui s'était fait choper par les surveillants. Voilà. Et la conspiration des cellules de feu, groupe anarchique grec, a revendiqué l'explosion d'une bombe devant le domicile de Maria Steffi le 7 juin. Maria Steffi est la directrice d'une prison dans laquelle sont enfermés 10 membres de la conspiration des cellules de feu. La bombe n'a pas fait de victimes et la voiture de la matone en chef est complètement détruite.
Et on continue avec d'autres dégradations de voitures de Mâton, puisque cette fois c'est à Béziers, en fait, dans le centre pénitentiaire du Gasquinois. Il y a beaucoup de tensions en ce moment, et ça s'est traduit notamment par la dégradation de 6 véhicules appartenant à des gardiens de prison. Donc ils ont été vandalisés sur le parking du centre pénitentiaire, 7 pneus crevés et un rétroviseur cassé.
On finit les petites brèves avec une prise d'otage. C'était aujourd'hui à la prison d'Arles, c'est une maison centrale pour longue peine. À 14h, un détenu a appelé un maton dans sa cellule et l'a pris en otage avec 2 armes artisanales. Un petit peu plus tard, un moniteur de sport a pris la place du maton de son propre chef. L'otage a été échangé. Le GIPN est intervenu. Apparemment, le détenu demandait un hélicoptère, l'intervention de la presse et finalement seulement un changement de prison, un transfert. Et on ne sait pas si le transfert a été accordé, mais la prise d'otage a fini à 4h30.
Et du coup, on va se faire un peu de bien en faisant les brèves d'évasion, parce que on nous fait toujours croire que ces murs, ils sont infranchissables, que tu es privé de liberté et que tu pourras pas y échapper, que tu devras faire ta peine en entier. Et ben non, la soif de liberté, elle est toujours beaucoup plus forte que ces peines, que tout ce qu'on s'inflige, du coup.
Le vendredi 31 mai, 4 mineurs ont réussi à escalader l'enceinte de la prison d'Aboisseau en Côte d'Ivoire. L'un a été rapidement rattrapé par les flics, mais les 3 autres ont disparu dans la ville. Au moment de l'évasion, de nombreux passants et passantes se sont arrêtés devant la tôle, ce qui n'était pas du tout du goût des flics sur place qui les ont aspergés de gaz lacrymogène.
Jeudi 6 juin, on part en Côte d'Ivoire avec de très nombreux détenus de la prison d'Agboville qui aussi se sont évadés. Ils en ont profité d'une coupure d'électricité et de pluie diluvienne pour se faire la malle discrètement en pleine nuit.
Jeudi 6 juin, un détenu en semi-liberté à la maison d'arrêt d'Épinal s'est évadé. Il prenait des cours à un lycée agricole et était transféré en bus de la pénitentiaire chaque matin et chaque soir de sa cellule à la salle de classe. Au milieu d'un cours, il a simplement demandé à aller aux toilettes et en a profité pour se barrer. Il court toujours.
Hier matin, un détenu de la prison de Nantes a tenté de s'évader. Il a réussi à franchir un premier grillage pour atteindre le chemin de ronde, puis à escalader le mur d'enceinte avec un grappin artisanal. Mais les matons lui ont tiré dessus et l'ont stoppé dans sa belle entreprise.
Mercredi 12 juin, ce sont 3 mineurs détenus au centre de détention Oberstone en Irlande qui ont pris la poudre d'escampette.
Le 1er juin, 3 personnes ont attaqué la prison centrale de Niamey au Niger, ont blessé 3 gardiens et tué 3 autres. L'assaut a permis à une vingtaine de détenus de s'évader, mais un assaillant a été tué et les 2 autres arrêtés.
Le 10 juin, à Libreville, au Gabon, des détenus en cours de transfert ont attaqué les gardiens qui les escortaient et ont réussi à provoquer un accident pour stopper le bus. Pour l'anecdote, l'accident a eu lieu juste derrière l'Assemblée nationale. Sur les 20 détenus, 2 se sont enfuis.
Vendredi 31 mai, 43 détenus de la prison de Gagnoa en Côte d'Ivoire se sont fait la malle. Au petit matin, ils ont attaqué un mur de leur cellule avec une hache et des petites cuillères. Puis le mur, en fait, il avait déjà été abîmé en 2011 pendant un incendie. C'était une autre évasion à l'époque, mais ça n'avait pas été réparé. Et du coup, les détenus sont venus assez aisément à bout du mur. Un 44e détenu a tenté de s'évader, mais il a été abattu sur place par les gardiens. Et sur les 43 actuellement, seuls 6 ont été repris par les flics.
Le 8 juin, un groupe armé a attaqué la prison de la Union au Mexique. Ils ont tué 3 gardiens et libéré 9 prisonniers.
On continue maintenant avec les messages aux détenus basques de la région lyonnaise.
Et pour faire de la solidarité aussi du bien, parce que les lectures des textes étaient quand même assez dures et du coup, il n'y a pas que... On peut quand même franchir ces murs, je sais pas.
Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre pour. Nous laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque, de ce qui se passe ici dans les tôles de Corba, Villefranche, Roanne. Parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs. Askatasuna. Liberté et solidarité.
Kaixo Jone, zer moduz zaude makea. Badakigu gaizki pasatzen ari zarela. Eta honek penaz betetzen gaitu. Hala de animo, bizkorre izan. Jakin beti gurekin zarela, beti. Matxe zaitu gula. Gaur, 30 graduko temperatura dago termometroetan. Hori dela eta belarrak egiten ari dira. Bino, bezarka da handi bana bialtzen dizue. Agur, oso ongi izan. Ba, handi bat, Jone.
Guapa, zer moduz? Ba, ni bat ezazan egina. Bueno, azteko, ez dakit irratie entzuteko aukera eukiko zon, baina, bueno, pentsatzea eta iderrek eta volumen nahi fuerte emango joala eta txirrikitu batetik behintzat entzungo gaito zola. Ba, xaxikina, Jonetxo.
Apa, Jonetxo.
Hemen gaude, Aizarna Zabalen, etorri da, ba, 5 minutu da, hauzu maiatik Aizarna Zabal. Eta etorri da de bisita, eta kriston giro atea doga, eta ni pixka eta inarekin da batzan da zendabelarrak txukun jartzen, larrosa bat landatuz, gero margarita batzuke bai, eta hoiz, eta iluntzea da, 7:00, bueno, 7:30, eta hemen txe gaude zerbezatxo bat hartzen, da ze aukera hobea zuri deitzeko baino. Eta hoxe, ba, bueno, muixu handi ba bi aldu nahi dizot, ondo nintzen atzo uxukin Tolosan, esan zien oso guztean duzinetela, eta, bueno, zure amakin ere ondo nintzen iganden, eta, bueno, pixkate ondo ginen itzeiten, ba, zigorran ingurun, kristala jartzeana, pasada bat iruditzen zait, eta iruditzen zait jone, osa, matxakatzen nahi zaizuela, osa, ba, indartxu zaudelako, eta, porque no les pasas ni una. Eta, hola zeitzu, ni beti hola zautu zaiot, osak, ba, egit hola zeitzuko zola. Eta, hoxe, ba, animo pile bat, muixu handi bat, hoi pile bat matxe izotela, eta faltan botatze izotela, egunero, baina, bueno, ba, seguro nao, zeitzun hemen izanen gala, o izanen zaitzula, eta joanen ga proiektuk eta hola gauzek aurrera teatzen. Eta hoxe, ba, bitarte muixo handi bat, esatea, ba, bai leitzan, Zumaian, ba, jarritxula kartelak eta areson kartela jarritxula zure zigorra dela eta, bueno, jendek eskutitze bialtzeko espetxeko zuzendariri. Eta, bueno, hortan aiga, orduan, ba, hoxe, ba, zuek barrendik eta gu kanpoti, ba, lortuko hula, eta muixo handi bat, eta bain xaxi hartzen da. Agu, bueno, muixo handi bat dena ere, bai, urko, guapo, aio.
Hau pa matxe, zumoz guapi, jaba, enbatxo bat, gure hau txentzun gabe. Bueno, hori, saio komentatu izun bezala metxea godela Aizarna Zabalen, zerbezatxo bat hartzen, eta, ba hori, gustoa konpartituko genukela zurekin momentu hau, eta gure erara konpartitzen deula jakin, eta hoxe, asko maite zaitea, eta muso handi bat bai, zain du guapa, aio, venga, muso bat ez guzti eire, aio.
Kaixo, arratzaldeon, Jone. Urko, Aletxu, Eider, Xavier, Leon Korbaseko preso politiko guztik, ze muzaudet, Badakizu non naun? Jone badaki nun daun, altzegi naun. Eta guain etorri die Alaitz eta Gorka, eta esan diate musa hundi bat emateko zuen denantzako, eta, bueno, ba, badakiz borrokan zaudetela, guemen ere bai. Así que ánimo, aupa Jone, venga, segi gogor. Vale. Bueno, guain zure txanoa eta esango diede txuzenzula, vale? Hala. Elkartasuna lion korbaseko euskotezo politiko guztiei. Maite zaituztegu, vale? Agur. Aio, bukatu.
Kaixo, neska mutilat. Soy el aita de Jone. Zer moduz? Espero que bien. En Euskal Herria ha salido el sol después de días, meses de oscuridad, lluvia y frío. La nueva situación, la verdad, es que levanta el ánimo. Por el caserío, pues, seguimos trabajando. Terminó la temporada de partos y de corderos y hemos hecho queso, que por cierto hemos probado alguno y ha salido bastante bueno. A ver si tenemos posibilidad de que lo probéis. Y ahora, pues, preparando un poco, si el tiempo se estabiliza, preparando un poco las tareas del verano, ¿no? Del corte y secado de la hierba para las ovejas para el invierno, ya sabéis. La huerta también va un poco retrasada por el tema del barro y la lluvia y todo ese tipo de cosas, pero bueno, al final hemos conseguido plantar y sembrar todo lo que había que hacerlo y ahora esperar a que salga. Esperemos que como se decía antes, ¿no? Que el señor aprieta pero no ahoga, aunque ahora está un poco en duda eso, ¿no? Parece que nos aprieta y nos ahoga. Bueno, eso en cuanto al curro. Pero también seguimos luchando. El 30 de mayo dejó buen sabor de boca. En nuestra zona fue un bombardeo total. Manifestaciones potentes de Real y de Pueblo. Y sobre todo mucha gente joven, que es lo que a los veteranos como yo nos anima. Y bueno, que seguimos concentrándonos todos los lunes ante la sede del PP en Iruña, los familiares de presos y refugiados y exiliados, y la Trini, que se ha ido a un orden de chera. O sea que trabajo y lucha, y a ver si conseguimos que las cosas vayan un poco mejor de lo que van actualmente, que estáis en nuestro pensamiento constantemente, y ánimo. Bocatu.
Samedi 15 juin 2013, une vélorution est en route pour Grenoble, contre un projet inutile et néfaste, le prolongement de l'autoroute A51, pour relier Monestier de Clermont à Gap. Cette autoroute augmentera encore le nombre de voitures et la pollution de la cuvette grenobloise. Elle traversera la campagne et la montagne du Trièves, du Bouèche, du Beaumont, du Champsaur, du Dévoluy et du Val-Gaudemar. Elle portera atteinte de façon irrémédiable aux terres agricoles et aux espaces naturels. Contre ce projet démesuré et dévastateur, c'est à vélo que nous ferons la route ensemble jusqu'à Grenoble, sans nuire, sans gaspiller, sans vitesse ni moteur. Nous vous donnons rendez-vous au col du Faux, à Monestier de Clermont, dès 11h, pour un pique-nique festif, suivi d'une vélorution exceptionnelle, la descente de l'autoroute A51, encore jamais vue. Départ des vélos à 14h. Venez nombreux. Plus d'informations sur stopa51.org.
Alors, le Canu Info, c'est fini. On voulait juste vous rappeler que si vous voulez appeler pour nous laisser des messages ou nous donner des infos, c'est possible pour la prochaine fois le mercredi 26 juin à partir de 19h15 au 04 78 29 26 00. Et puis voilà, bonne soirée.
Merci pour votre écoute. On laisse l'antenne à Noise Pollution.